ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Charles Giulioli, vous êtes ingénieur, artiste peintre, et vous êtes passé de la physique à l'art numérique. Et vous me dites 40 ans de recherche de la vérité. C'est tout un programme. Merci d'avoir accepté mon invitation à venir dans cette émission de Ma foi, j'y crois, cette émission de radio catholique. Et en fait, comme ingénieur, la question de la religion n'était pas votre premier intérêt.
D'ailleurs, parler de 40 ans à la recherche de la vérité, c'est un peu présomptueux, disons. J'ai vécu mon petit chemin au jour le jour, m'intéressant à différentes questions, et c'est vrai qu'on évolue petit à petit. Mais alors, ingénieur, oui, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait l'école centrale, mais j'avais pris l'option physique, et c'est la physique qui m'intéressait. Et alors, ce lien entre la physique et la religion n'est pas direct, mais c'est plutôt avec la métaphysique. Ce qui m'intéressait dans la physique, c'est de comprendre la nature du monde, d'essayer de savoir pourquoi qu'est-ce que le monde.
Parce alors, que votre famille n'était pas particulièrement pratiquante et,
Non, ma famille était chrétienne, non pratiquante.
Il fallait faire des études d'ingénieur pour bien gagner sa vie. Mais alors, le mystère des atomes, des noyaux, des électrons, c'est ce qui vous interpellait dans la recherche ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Je me suis demandé très vite, dès le lycée, on nous parlait de la matière qui était constituée d'atomes, que les atomes étaient constitués de noyaux et d'électrons. Et je me demandais ce que c'était que les électrons. Et bon, il m'a fallu pas mal d'années d'études pour comprendre que l'objet de la science, c'était pas de savoir, de connaître la nature des choses, mais de connaître leur fonctionnement, de connaître le comment. C'est-à-dire qu'on est capable, par exemple, de savoir que deux masses s'attirent et de quelle façon elles s'attirent, et très précisément même, comment les astres tournent les uns autour des autres, etc. Mais de là à dire qu'est-ce que c'est qu'une masse, c'est pas l'objet de la physique. C'est l'objet de la métaphysique, justement. On ne sait pas ce que c'est qu'une masse. On sait la décrire uniquement. Même chose pour les charges électriques, etc.
Donc, aller à l'école centrale ne vous suffisait pas. Et je me rappelle, nous nous sommes connus il y a quelque temps déjà, à l'école Supaéro, où justement, nous étions chargés de donner des cours de culture, parce que ces élèves ingénieurs avaient parfois le spin ou même des gros problèmes psychologique pour découvrir ce que c'est que la poésie, la gratuité. Il ne suffit pas de savoir ce que c'est que les fractales et la résistance des matériaux.
Ah, moi, cette expérience-là, Super-Héros, était une excellente expérience qui a duré 10 ans pour moi. L'idée, c'était de faire un peu un cours, plus qu'un cours, un séminaire de discussion sur l'histoire de l'art, vu du point de vue d'un ingénieur. C'est-à-dire que j'avais intitulé mon séminaire « Art et mathématiques » et on parcourait l'histoire de l'art à travers les concepts mathématiques, par exemple la perspective, la composition, les canons du corps humain, etc. Les fractales, tous les moments de l'histoire de l'art où les mathématiques ou la géométrie ont eu leur importance. Et c'était intéressant parce que souvent, les critiques d'art et le monde de l'art ne parlent pas exactement avec le même langage que les ingénieurs. Et moi, j'avais cet avantage de connaître un peu les deux langages.
D'ailleurs, dans votre itinéraire, vous êtes passé, après avoir été chercheur au CNRS, à une première bifurcation qui est la peinture. Alors, je me rappelle cette phrase qui nous interrogeait tout le temps, « Un bon avion est un bel avion ». Il ne suffit pas que ça fonctionne, il ne suffit pas d'imiter la nature.
Oui, alors c'est un petit peu compliqué ce passage. Oui, avec le recul, on parle, tout à l'heure on parlait d'itinéraire, de recherche, c'est pas si clair que ça. Sur le coup, on fait les choses sans un petit peu au jour le jour. J'ai quitté mon laboratoire, c'était un laboratoire de biophysique, non pas parce que la biophysique ne m'intéressait pas, mais parce que je ne me sentais pas à l'aise dans ce laboratoire. Et j'ai pensé, puisque je faisais un peu de peinture depuis longtemps, je me suis toujours intéressé à la peinture, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de tenter ma chance dans cette voie de la peinture. J'étais pas sûr, d'une part, de pouvoir gagner ma vie, et puis aussi, j'étais pas sûr que ça m'intéresserait, parce qu'entre peindre le dimanche une fois de temps en temps, et puis peindre tous les jours, c'est pas exactement la même activité. Et il se trouve que les deux réponses ont été satisfaisantes. J'ai pu en vivre modestement, mais j'ai pu en vivre. Et puis, plus j'en ai fait, et ça s'est jamais infirmé, plus j'en ai fait, plus j'ai peint, plus j'ai eu envie de peindre. Alors évidemment, les raisons pour lesquelles je peins, mes idées sur la peinture aujourd'hui n'ont pas grand rapport avec celles que j'avais il y a 40 ans, mais c'est un cheminement.
Et cela vous épanouissait et vous trouviez une certaine beauté, vous trouvez toujours d'ailleurs une beauté dans le fait d'exprimer sur la toile des sentiments.
Alors la question de l'expression et de la beauté, c'est deux choses un petit peu différentes. Mais alors la beauté, oui, puisque vous parlez de beauté, c'est quelque chose qui me fascine. Je pense que le sentiment de beauté est quelque chose qui est le plus grand moteur dans ma vie, mais dans la vie de tout le monde, je crois. En rencontrant différentes personnes et différentes cultures, on s'aperçoit que tout le monde ne trouve pas beau la même chose. Par contre, tout le monde éprouve à un moment ou un autre un sentiment de beauté. Tout le monde est un jour émerveillé, surpris par la beauté d'une chose. On se dit « Ah, que c'est beau, que c'est beau !» Et c'est un sentiment très fort et qui nous attire et qui nous donne envie de vivre.
C'est une attirance qui nous fait vibrer justement la découverte de quelque chose qui... un mystère que
oui,
nous ne comprenons
un mystère,
pas.
C'est un mystère. Alors, j'ai une phrase de François Cheng, qui a écrit un livre là, qui s'appelle « Un petit livre, 5 méditations sur la beauté », que je conseille à tout le monde, c'est magnifique ce livre. Et il dit « Chaque expérience de la beauté rappelle un paradis perdu et appelle un paradis promis ». Je trouve cette phrase très belle, parce qu'on ne sait pas pourquoi, la beauté nous attire, c'est fondamental.
À méditer, parce que certains réduisent la peinture à des objets que l'on va vendre, à une distinction, à du commerce. Mais vous me dites, l'art, ce n'est pas forcément beau.
Oui,
c'est
alors,
ce qui nous surprend.
Voilà. Ah, oui, alors je reviens à votre question, là, sur l'expression et la beauté. L'expression, c'est autre chose. Quand je peins, ou quand un artiste peint en général, il a envie de mettre sur le papier ou sur la toile quelque chose qui lui ressemble. C'est-à-dire qu'on est souvent perdu dans ses idées, on a l'impression de perdre pied, ça ne va pas. Et le fait de se mettre, pour moi, c'est devant une toile et de commencer à peindre sans savoir exactement ce qu'on va faire. Et puis petit à petit, les choses s'ordonnent et puis on arrive, pas en une seule journée en général, à avoir devant soi quelque chose qui reflète, où on a l'impression que ça reflète précisément notre état d'esprit. Et donc, c'est une expression. C'est toujours difficile, parce que ce n'est pas évident, justement, ce qu'on ressent, ce qu'on veut exprimer, on ne le sait pas exactement. On en a une vague intuition, mais on ne sait pas. Alors, par tâtonnement, petit à petit, on arrive quand on réussit, à faire quelque chose, et on dit « Ah !» Là, ça y est, c'est ça que je voulais exprimer. Et ça, c'est un moment merveilleux.
Tableau n'est jamais fini, pourtant.
Si, il est fini quand on a ce sentiment. Et puis bon, après, le tableau, quelques jours après, on se dit « Ah non, c'était pas vraiment ça ». Et puis on en fait un autre, voilà.
On passe du chaos des sentiments ou du chaos de la nature à la recherche d'un certain ordre. Donc vous disiez la recherche d'une vérité ou de la vérité.
Oui, de sa vérité, de sa vérité en l'occurrence. Alors les motivations... Enfin, on met... C'est vraiment étonnant avec le recul, parce que quand je peins et que j'arrive à un certain résultat qui me satisfait, si je regarde dans le passé, c'est pas du tout la même chose qui me satisfaisait il y a 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, que ce que je recherche aujourd'hui.
Autre rupture dans votre itinéraire, vous êtes passé donc de la peinture, de la perspective, à un changement radical de style. Et
oui, oui, c'est il y a déjà 25 ans à peu près. Je peignais à l'époque des perspectives, des paysages imaginaires qui me satisfaisaient beaucoup, dans lequel justement je retrouvais un ordre parfait. Et surtout, alors puisqu'on parle un peu de métaphysique, ce qui me fascinait, et qui me fascine toujours d'ailleurs, c'est les ombres. Je dessinais beaucoup d'ombres, l'ombre d'un pilier, l'ombre d'une porte, etc. Et de voir comment l'ombre que je dessine, que je calcule, puisque c'est un calcul géométrique très précis, correspond exactement à l'ombre que je vois en vérité dans la nature. Et il n'y a pas beaucoup de domaines dans la vie où l'expérience concrète de tous les jours correspond précisément à la théorie. Et je trouvais ça extrêmement rassurant. Je dois dire que maintenant, j'ai beaucoup changé parce que justement, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est ce qui échappe à la théorie. mais à l'époque, j'étais fasciné, oui, par cette... je trouvais ça rassurant. Cette idée, on peut parler d'arrière-monde, par exemple, cette idée qu'il y a un monde derrière qui est le monde de la géométrie et qui se manifeste dans notre monde réel.
Alors, l'art, c'est aussi la musique, puisque vous me disiez, vous aimez peindre en écoutant de la musique, et vous nous avez apporté un morceau que nous allons écouter et que vous nous commenterez tout de suite après. Merci.
J'y crois, avec Benoît Petit.
Ce soir avec Charles Gigliologi, vous êtes ingénieur, artiste peintre. Pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, vous êtes passé de la physique à l'art numérique, 40 ans de recherche pour la vérité. Alors, cette musique d'Anwar Brahem, c'est ça?
Oui, c'est une musique d'Anwar Brahem et John Serman, que j'aime beaucoup ces musiciens. Bon, je l'ai choisi un peu par son dans le cadre de cette émission qui évoque vraiment le monde spirituel. C'est-à-dire que cette musique, il y a beaucoup de silence dans cette musique. Elle est très, on entend distinctement les notes les unes après les autres. Elle laisse beaucoup de place au silence et elle laisse percevoir quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible, justement. C'est ça, pour moi, le monde spirituel. En plus, c'est un côté, le côté symbolique de voir un joueur de oud, donc de culture musulmane, avec un Américain qui joue du saxo. Je trouve cette harmonie me plaît tout à fait. Je sais que vous êtes amateur de culture interreligieuse. Voilà.
Et il y a une recherche intelligente, mais vous n'êtes pas pour la modernité qui va jusqu'à l'intelligence artificielle. Débat de... qui nous intéresse sur le hasard et la nécessité et sur le fait qu'il y a une forme de gratuité dans ce que l'on fait. Enfin, c'est...
Oui, on avait évoqué l'intelligence artificielle parce que je me pose des questions sur la nature. Je l'avais évoqué déjà à propos de la physique, sur la nature du monde. Et de plus en plus, je trouve qu'il y a énormément de notions qu'on est incapable de... On vit sur un monde, on croit avoir les pieds sur le sol, mais en fait, on ne sait pas où on est. C'est-à-dire, alors je prends des exemples de concepts qui sont indéfinissables. Le temps, par exemple, ou l'espace. Comment définir le temps? Alors, tout le monde sait bien ce que c'est que le temps, comme disait saint Augustin. Tout le monde sait bien ce que c'est que le temps, mais quand il s'agit de le définir, on est absolument... incapable de le faire. Même chose pour la notion d'espace. Qu'est-ce que c'est qu'une distance entre deux choses? Pourtant, tout le monde sait ce que c'est que la distance entre vous et moi. Mais s'il faut la définir. Et alors,
Le temps, on a des horloges pour les calculer.
Voilà, mais, et les horloges.
Ça ne répond pas tout.
Mais les horloges servent à mesurer le temps. Et le temps, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est mesuré par une horloge. Et on tourne en rond.
Et il y a la subjectivité entre les cultures. Nous n'avons pas toujours la même notion du temps. Lorsqu'il faut attendre son amoureux ou lorsque nous attendons l'autobus.
Le temps psychologique, c'est encore autre chose. Alors, j'avais pensé à l'intelligence artificielle parce qu'il y a un débat. Vous savez, en intelligence artificielle, par exemple, on apprend un ordinateur à reconnaître une voiture. Bon, alors on lui explique pas ce que c'est qu'une voiture. On lui montre des milliers de photos. Quand il y a une voiture dessus, on lui dit oui. Quand il n'y a pas de voiture, on lui dit non. Et petit à petit, il réussit à savoir ce que c'est qu'une voiture. Et j'avais assisté à une conférence où le spécialiste expliquait que finalement, c'était exactement comme nous, comme un enfant. Un enfant qui apprend à lire, qui apprend à parler, tout simplement, il ne sait pas, il ne sait rien, il part de rien.
Il répète.
Il répète. Par exemple, on lui lit une histoire où il y a un château et une princesse, mais il ne sait pas ce que c'est qu'un château, il ne sait pas ce que c'est qu'une princesse. Mais on lui lit deux histoires et trois histoires et dix histoires. Et petit à petit, il se fait une idée de ce que c'est qu'un château et une princesse. Et en fait, quand on y pense, toutes nos notions nous sont acquises comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... on ne peut pas partir d'une base solide. On est tous...
conditionnés d'une certaine manière.
On construit toute notre culture sur rien. Alors, par exemple, pour définir une table... Bon, ben là, on est à peu près tous d'accord. On a vu beaucoup de tables, on sait ce que c'est qu'une table. Tous les humains se mettent d'accord sur la même chose. Mais quand on arrive à des notions plus abstraites, que ça soit l'amour, que ça soit la démocratie, que ça soit... Enfin, des notions plus abstraites, on a chacun compris quelque chose. Mais c'est pas forcément la même chose que tout le monde a compris.
Pour ça que vous me disiez... la laïcité, moi, je ne sais pas ce que c'est. J'entends tellement de personnes qui s'affrontent sur ces questions avec des prénotions que
oui, c'est le
privé, le public.
Alors justement, tous les débats qu'on peut avoir, les débats politiques ou philosophiques en général, sont basés sur le fait qu'on n'entend pas la même chose par le même mot.
Des a priori.
Et cette histoire de la laïcité dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai que j'ai jamais bien compris de quoi il s'agissait. Bon, je suis évidemment pour la liberté religieuse. Je suis contre l'athéisme imposé. J'entends en général les gens qui s'expriment là-dessus avoir des arrière-pensées. Et je ne comprends pas exactement, suivant la personne qui en parle, les arrière-pensées sont différentes. Donc si la question est la liberté religieuse, évidemment, je suis pour la liberté religieuse.
Oui, le débat, c'est donc d'essayer de comprendre l'autre et peut-être aussi de le voir dans ses œuvres. d'interpréter, de dire tu vois tel genre de couleur, tu interprètes ce tableau, il y a un sentiment qui apparaît. Mais votre dernière démarche, c'est de faire justement de la peinture avec l'ordinateur. Peut-être deux mots, parce que nous arrivons bientôt à la fin de l'entretien.
Pour aller vite, ce qui m'intéresse dans l'ordinateur, c'est sa possibilité de générer du hasard. Alors j'écris des programmes informatiques qui, au début en tout cas, imitaient ma peinture. Et la grosse, c'est-à-dire que... Pour expliquer très rapidement, je fais des dessins à la main que je scanne, qui me servent de bibliothèque d'images, et le programme que j'ai écrit, je lui impose une composition du tableau. Évidemment, si on avait l'image, on verrait mieux. Mais le programme va construire un tableau à partir des images que je lui ai mis en mémoire. Mais la grosse différence entre un tableau que je fais à la main et un tableau fait par l'ordinateur, c'est que lui va faire des choix au hasard, alors que moi, mes choix sont guidés par mon intuition. Et je me méfie de mon intuition parce qu'on prend des habitudes. Et un artiste, au bout d'un moment, il a l'habitude de faire les choses d'une façon et c'est ça qui le guide plus qu'une réflexion ou une intuition artistique. Donc j'ai voulu laisser une part... au hasard. Et alors ce hasard, j'aime plus... Au début, j'utilisais le terme hasard, mais ce terme me plaît de moins en moins parce qu'il a un côté péjoratif, le hasard. Bon, le hasard, c'est un peu n'importe quoi. Je préfère le mot liberté. C'est-à-dire que je crée un cadre et je laisse du jeu dans ce cadre. Je laisse des choses qui ne sont pas prévues, qui arrivent. Et je trouve que c'est tout à fait à l'image de nos vies. C'est-à-dire qu'on... On prend des décisions, on décide de faire quelque chose. Par exemple, j'ai décidé de... Il était prévu qu'on se rencontre aujourd'hui pour cette émission, mais je ne savais pas quelles questions vous alliez me poser. Ça, c'est les petits hasards, les petites choses qui font que chaque jour est différent et qu'on a envie de continuer la vie, de continuer à voir ce qui arrive. Et cette présence du hasard qui... Alors, je parlais tout à l'heure de mes débuts dans la physique, me gênait au début. J'aimais bien que tout soit prévu et calculable. Maintenant, au contraire, j'aime sentir dans chacun des jours de ma vie, dire tiens, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Ou le soir, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui que je n'avais pas prévu ? Et alors, il y a des mauvais hasards, c'est hélas, mais il n'y a pas que des mauvais hasards, il y a aussi des heureux hasards.
Il y a aussi parfois l'ennui qui oblige à changer.
On parlait d'itinéraire. C'est vrai que j'ai changé plusieurs fois de style. J'ai eu deux gros changements dans ma vie artistique. Et ce qui me guide, effectivement, plus que des décisions actives, c'est plutôt un ennui. J'ai l'impression de tourner en rond dans ce que je fais depuis un moment, d'un seul coup. C'est assez soudain, d'ailleurs, comme impression. D'un seul coup, j'en ai assez de faire ce que je faisais. Et c'est cet ennui qui me pousse vers autre chose.
Un dernier mot peut-être, puisque nous parlions de la gratuité et de ce qui fait que la vie nous est donnée et que nous aimons la nature avec à la fois son ordre, mais aussi la violence. Vous n'êtes pas décliniste, mais on disait Dieu pour vous.
Dieu, ça c'est un grand sujet. La gratuité, oui, on en a parlé tout à l'heure. Et quand on parle de gratuité, je pense au père Michel Dagra, que les auditeurs de
Radio Présence
connaissent bien, et que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois. Et c'était, je me souviens que c'était un de ses grands sujets, la gratuité à tous les niveaux, et notamment la vie qui nous est donnée gratuitement. Et devant l'attitude pessimiste de beaucoup aujourd'hui, je serais plutôt dans la position de celui qui a reçu un cadeau. Et quand on a reçu un cadeau, on l'accepte et on ne se plaint pas de ce cadeau. Et alors, pour terminer, à propos de Dieu, c'est un vaste sujet, comme dirait l'autre. La phrase qui m'a le plus séduit sur Dieu, que j'ai entendue il y a longtemps, d'un prêtre théologien et psychanalyste qui s'appelait Maurice Bellet, il dit « La seule certitude que nous avons sur Dieu, c'est que c'est un mot français de quatre lettres. »
Bah écoutez, merci pour ce témoignage de votre foi, de votre passion de la vie et de votre recherche. J'espère que nous nous reverrons, réécouterons l'année prochaine. Et merci aussi à Christophe pour l'enregistrement.